Morey.
C'est une bonne idée.
Live.
C'est une bonne idée.
En vacances.
Ça m'inspire.
Live.
Ça m'inspire.
Morey. Live.
Radio.
On a déjà un 20 degrés actuellement sur Québec. Ça va être une belle journée. Ça va être un beau lundi, assurément. Peut-être vous dire que sur la route, ça va oui et non. S'il y a des travaux, c'est compliqué. S'il n'y en a pas, ça roule tempête. La 20 dans les deux directions à la hauteur de Taniata, c'est assez compliqué à cause des travaux. Compliqué également sur Henri IV Sud à la hauteur de Sainte-Foy, là où se fait l'entonnoir, là, à peu près à la hauteur de la sortie pour aller sur Versant Nord, côté du Shell. Il y a un entonnoir qui se fait là, puis ça cause des ennuis encore une fois ce matin. Et Capitale également pour les gens qui sont direction ouest, direction Montréal, à partir de, je vous dirais, Henri Bourassa, en se rendant jusqu'à Robert Bourassa, c'est au ralenti assurément de ce côté-là. Vous pouvez nous écrire en tout temps, 418-670-9098, si vous avez besoin d'aide pour choisir la bonne peinture. Profitez du 2 pour 1 sur les peintures du luxe, bétonnel du luxe. Les experts canadiens de la peinture, c'est une offre qui est valide jusqu'au 6 juillet. Ça a fait pas mal jaser la semaine dernière. On l'a vu, là, Québec solidaire qui dévoilait des propositions visant à maintenir les loyers abordables. On était pas mal là-dedans. Et une de ces propositions-là était l'imposition à 100 %. L'imposition à 100 % quand même des loyers, ça, ben oui, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont venus jaser, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont dit « Hey, c'est peut-être pas la bonne façon de faire ». Et c'est le train en côte du côté de l'IEDM. On va parler avec Renaud Brassard, qui est vice-président des communications. Comment ça va, Renaud, ce matin?
Ça va super bien, vous autres?
Top one, numéro un. C'est l'été, il fait beau. Il n'y a aucune raison de mal aller.
Effectivement.
Sauf si on regarde l'actualité, effectivement, ça peut venir casser un peu. Donc, on pense quoi de ça, de la proposition de Kies sur l'imposition à 100 % des gains en capital?
Ben, écoutez, comme on dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Puis je pense que dans ce cas-là, QS a exactement les bonnes intentions, mais malheureusement, la mauvaise solution. Ce que Québec solidaire propose essentiellement, là, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait propriétaire d'un plex, oui, qui décide de vendre son plex, ben, il ne paierait pas le taux d'inclusion de ses gains en capital. Ça ne serait pas 50 % comme c'est la norme présentement, mais 100 %. Le résultat de ça, premièrement, c'est que les gens qui vont souffrir, ce n'est pas des spéculateurs immobiliers imaginaires, c'est des gens qui ont acheté un plex tôt dans leur vie, qui ensuite ont utilisé ce plex-là pour s'acheter une maison, qui l'ont gardé comme fonds de pension pour leur retraite. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur planification, ils se sont dit, écoutez, j'ai besoin de tant d'argent pour ma retraite, je pense que le bon moyen, c'est d'avoir ce plex-là, je vais pouvoir louer des logements, j'envoie des revenus avec ces logements-là, il y a une valeur dans le plex. Ben, tous ces gens-là se feraient assainir par une nouvelle contribution fiscale au moment de vendre leur plex. Ces gens-là ne seraient pas mieux. Oui.
Mais ce serait quoi, hein, la meilleure façon, selon l'IEDM, de rendre les logements plus abordables?
Ben, c'est simple, c'est d'arrêter d'avoir un gouvernement qui se met dans les pattes de tout le monde qui veut bâtir des logements. C'est un peu ça qu'on voit présentement. Nous, on a proposé trois solutions autour du 1er juillet, des choses que le gouvernement provincial pourrait faire qui aiderait à rendre ça plus abordable. La première, ben, décloisonner les métiers de la construction. Ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'au Québec, on a plus de métiers réglementés dans le secteur de la construction que toutes les autres provinces. On a 25 métiers différents pour lesquels ça prend des cartes pour pouvoir faire le travail. Dans l'Ontario, il y en a juste 6. Donc, en fait, ces métiers-là, c'est des peintres, des charpentiers, ben, ça fait en sorte que ça prend plus de travailleurs pour faire une même maison, ce qui coûte plus cher.
L'exemple,
L'exemple
qu'on donne suivant, c'est que le gars qui gypse, qui pose du gypse sur une structure de métal, ne peut pas poser du gypse sur une charpente de bois.
Ben, exactement. Exact. C'est beaucoup de problèmes comme ça que ça fait d'un point de vue administratif. Tu sais, on regarde, là, quelqu'un qui fait des rénovations chez lui, c'est pas vrai qu'ils vont engager 4 personnes différentes parce qu'il y en a un qui peut poser le gypse sur la bonne affaire, puis l'autre qui peut le poser sur l'autre. Cette personne-là va soit le faire lui-même ou embaucher quelqu'un qui va être un homme à tout faire, qui va un peu tout faire, mais qui n'a pas nécessairement ses cartes.
Mm-hmm.
Dans le secteur de la construction, par contre, on peut pas vraiment embaucher quelqu'un qui n'a pas ses cartes. Un promoteur qui veut faire un projet de 100 nouveaux logements, de 100 nouvelles maisons, il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il suive justement toutes ces exigences-là. Bien, le résultat, c'est que ça finit par coûter plus cher parce que tu as besoin d'avoir plus de gars qui travaillent sur le même projet. Tu as des cas où il y aura des retards parce que ben, ça peut adonner que celui qui fait la charpente n'est pas disponible au bon moment. Puis là, ton peintre est peut-être disponible 2 semaines après. Ça, ça, ça crée tout un bordel, essentiellement. C'est en sorte que ça fait monter le prix des maisons. Donc, déjà, de rendre ça plus flexible, d'avoir un nombre de métiers réglementés qui soit un peu plus raisonnable. C'est-à-dire, bon, mais peut-être qu'un électricien, un plombier, il faut réglementer ça. Mais peut-être que le peintre en bâtiment, c'est pas vrai qu'il a besoin de 9 mois de cours avant de commencer à pouvoir travailler. Fait que ça, c'est une chose qui aiderait déjà.
Mis à part ça, parce qu'on s'entend pour dire que le cadre des emplois puis de la façon dont les syndicats surveillent ce que tout le monde fait, c'est aussi vrai dans les constructions qui sont dirigées par le public que par le privé. Là.
Bon, oui, absolument. Puis c'est sûr que ça nuit, c'est sûr que ça n'aide pas. Et surtout que les syndicats se battent très, très fort pour éviter que ça change au niveau, justement, de ces professions-là. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui nuit. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres choses que les gouvernements pourraient faire. Une autre qu'on avait proposée, justement, est de revoir les questions de zonage agricole. Parce que au Québec, si on veut si on veut construire des bungalows, ben, en général, l'endroit où on le fait, c'est sur d'anciennes terres agricoles.
Mm-hmm.
Sauf qu'au Québec, c'est extrêmement difficile de faire dézoner ça, de faire changer de vocation. Donc, un agriculteur qui ne trouve pas de relève, qui cherche à vendre sa terre, qui se dit, écoute, on pourrait au moins faire des logements ici, ben, s'il vend à un promoteur immobilier, le promoteur immobilier ne pourra rien faire. Un, ça affecte la valeur de la terre. Donc, la terre est vendue moins cher. Ça nuit à l'agriculteur qui a vendu cette terre-là.
Mm-hmm.
Mais deux, ça fait en sorte que si on ne peut pas bâtir ces maisons-là, ben, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui ont de la misère à trouver ce type de logement-là, qui vont rester dans quelque chose de plus petit, qui convoyait moins à leurs besoins. C'est une des choses qui crée justement cette hausse des prix des loyers. Et qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent une maison, qui attendent une maison, mais sont vendues tellement cher qu'ils restent plus longtemps en appartement. Ils déménagent moins. C'est en sorte que les appartements qui étaient disponibles à des prix abordables ne le sont pas pour ceux qui sont le plus dans le besoin.
Oui, puis même pour les propriétaires, nous autres, on est un peu dans ce principe-là. Là, on regarde des maisons à vendre, mais on les regarde sans vraiment sentiment d'urgence parce que, justement, on regarde le monde sur le lancer, ses prix, puis ce genre de patente-là. Puis on se dit, bien, rendu là, on prend pour acquis qu'on va payer assez cher pour la prochaine maison. On va juste attendre d'avoir la maison parfaite.
Bien, exactement. Puis c'est un des enjeux, en fait. C'est un peu la même chose qu'on parle du contrôle des loyers. Les deux ont un peu le même effet. Ça réduit le nombre de déménagements. C'est en sorte que, ben, on attend beaucoup plus longtemps avant d'upgrader un peu notre chez-soi, d'aller vers quelque chose qui fit mieux avec nos besoins. Et l'effet se fait sentir dans tous les types de logements. Ça, c'est vraiment une chose qui est importante à noter. C'est que chaque fois qu'il y a un nouveau logement qui est construit, que ce soit une nouvelle maison, un penthouse ou un HLM, ben, ça a un effet parce que ça augmente l'offre. Il y a quelqu'un qui cherche ce type de produit-là, qui va pouvoir déménager dans le nouveau logement qui a été bâti, mais qui laisse un autre logement qui répondait peut-être moins à ses besoins à lui, mais qui répond peut-être parfaitement aux besoins de quelqu'un d'autre. Et ce qu'on voit, il y a des études qui ont été faites là-dessus qui ont suivi des milliers et des milliers de familles aux États-Unis pour voir quelle est cette dynamique. Bien, à chaque fois qu'on construit 100 nouveaux logements, il y a entre 45 et 70 logements abordables qui sont libérés. Ça, on parle de nouveaux logements construits, quel que soit le niveau de prix. Là, même si on avait une situation où il y a 100 penthouses à 1 million qui sont construits, ça donne le même résultat.
Tu parles des fermiers, puis écoute, j'ai le goût d'ouvrir une petite parenthèse à notre sujet de conversation parce que ce matin, je faisais état du texte de Luc Lavoie dans le journal ce matin. Qui parle justement de la gestion de l'offre parce que semble-t-il que c'est le point qui achoppe avec les négociations avec les Américains pour le retour du libre-échange. Sérieusement, si j'étais agriculteur ou si tu venais d'une famille d'agriculteurs, Renaud, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes qu'on voudrait adresser avec les différentes instances gouvernementales à l'heure actuelle, hein?
Bien, absolument, absolument. Puis c'est le fun que tu parles de gestion de l'offre. Alors, c'est vrai, c'est un enjeu dans nos négociations commerciales avec les Américains. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un enjeu pour toutes les familles présentement. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à arriver à la fin du mois. Puis ils voient leur facture d'épicerie coûter cher. On avait publié quelque chose récemment avec mon collègue Gabriel Chiguère qui montre que, écoutez, sans la gestion de l'offre, là, le panier d'alimentation moyen des Canadiens serait 224$ de moins par personne.
224$ par année?
Ben oui, à la fin de l'année, je préférerais avoir ce 224$-là dans mes poches. Ben, ça, c'est quelque chose qui varie, bien sûr, tout dépend du ménage. Hein. Un ménage qui est très, très riche, avec des montants qui sont supérieurs, mais même les moins nantis, on estime que pour le 20% des ménages les plus pauvres, une différence de 279$ dans leur poche à la fin de l'année.
C'est majeur.
On a d'un côté, ben oui, c'est majeur. Puis on a d'un côté, des gens comme Québec solidaire, puis qui disent avec raison, écoutez, les gens sont pris à la gorge, ils arrivent pas, ils réussissent pas à payer toutes leurs épiceries. Mais d'un autre côté, ces mêmes parties-là qui s'en vont dire, ouais, mais il faut vraiment garder cette politique-là qui fait en sorte que les ménages les moins dentis payent à peu près 300$ de plus pour aider une poignée d'agriculteurs.
Il n'y a pas, il n'y a pas 36 000 façons, c'est parce qu'il faudrait racheter les quotas, puis on n'a pas les moyens de le faire.
Ben, je dirais que c'est moins pire de racheter des quotas que d'être pogné à payer 300$ par ménage par année pour les plus pauvres, ou 224$ par Canadien. À ma année, il faut voir, ça coûte très, très, très cher. Racheter des quotas, c'est sûr, ça coûte cher sur le coût, mais au moins, ça permet de terminer cette situation où on paye toujours justement pour ce privilège-là qu'une poignée d'agriculteurs a. L'autre affaire, tu mentionnais avec raison, c'est quelque chose qui achoppe dans les négociations commerciales. Les fermiers sous gestion d'offre, les agriculteurs sous gestion d'offre, c'est juste une toute petite partie de tous les agriculteurs. Il y en a, la majorité vont faire des produits qui ne sont pas sous gestion de l'offre. Ils vont faire que ce soit du porc, du canola, du grain, du maïs. Tous ces produits-là, qu'on échange notamment avec les États-Unis, sont présentement un peu menacés par les renégociations de l'entente commerciale. Ça, c'est sans parler de tous les produits industriels qu'on fait, qui s'en vont vers les États-Unis, qu'on échange avec les États-Unis. C'est-à-dire, écoutez, on va menacer essentiellement une bonne partie de notre économie pour sauver quoi? Le droit pour certains agriculteurs de nous charger trop cher pour de la bouffe. C'est quand même un peu dommage.
Non, je comprends très bien le point, mais c'est surtout que j'ai l'impression que le gouvernement, surtout ce qu'eux autres veulent pas, ce à quoi ils veulent pas faire face, c'est justement le rachat de ces quotas-là. Ils ne veulent pas se trouver dans cette position-là. Puis on les comprend, ce sont de piètres négociateurs. On le voit entre autres avec les ingénieurs qui négocient leur convention collective depuis maintenant 3 ans et demi, puis un matin ils sont en grève parce que c'est toujours pas réglé. C'est la même chose du côté de la gestion de l'offre. J'ai l'impression que le gouvernement se dit hey, si on ouvre cette porte-là, on est fait. C'est la faillite du Québec.
C'est sûr que c'est pas facile, mais je dirais que cette porte-là, on l'a ouvert récemment avec un autre milieu, le milieu du taxi. Avec la grille d'Uber, de Lyft, de toutes ces plateformes-là, au début, il y a eu beaucoup de réticence de la part du gouvernement à ouvrir ça. Parce qu'il se rendait compte qu'effectivement, le gouvernement avait vendu les permis de taxi. Si on venait à légaliser le transport de personnes sans avoir justement un genre de cartel du taxi, le gouvernement devrait racheter les permis. Et finalement, on regarde, ça s'est fait. Ça n'a pas mis le Québec en banqueroute. Je ne dirais pas que ça n'a pas coûté cher. Soyons clairs, ça a coûté cher. Mais au moins, ça a permis d'avoir plus de concurrence. Les clients sont plus satisfaits. Ouais. Il y a des travailleurs qui ont pu commencer à travailler dans le domaine qui sont plus satisfaits. Je pense que ce serait un peu la même chose avec la gestion de l'offre. Ça va coûter cher le jour 1, mais c'était le jour 1 ou c'est étalé sur 10 ans, il y a plusieurs façons de le faire, mais ça va coûter cher à un moment précis. Par contre, il ne faut pas oublier que présentement, ça nous coûte 224$ de plus par personne par année. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'on veut continuer à payer 224$ par personne pour essayer de faire un paiement, one shot, one done deal, puis après ça, on passe à autre chose.
Les producteurs de lait, eux autres, nous répondent tout le temps la même chose. Le lait américain, c'est de la merde. Ben oui, mais débarrassez-vous de vos quotas, puis mettez des lois sur la façon dont vous voulez que la vache ait été alimentée pendant si tu veux pouvoir vendre du lait.
Ben oui, mais plus loin que ça, écoutez, si le lait américain est aussi mauvais que ce que les producteurs laitiers canadiens nous disent, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire de lait américain? Je veux dire, en tant que consommateur, là, moi, ce que j'entends des producteurs laitiers, c'est que le lait au Canada offre un prix qui est plus stable, il est meilleur, il est de meilleure qualité. Pourquoi est-ce que j'irais vers un produit qui va me coûter plus cher et de plus piètre qualité? Cet argument-là, tu n'y avais pas la route. Je veux dire, si réellement le lait américain est de moins bonne qualité, ben, tu sais quoi, ils n'ont absolument rien à craindre parce que les gens vont continuer d'acheter du lait canadien dans la même proportion.
C'est
ça. S'il y a des gens qui préfèrent justement ce côté moins cher, ben, eux autres vont faire ce choix-là. Mais je pense que c'est de laisser le choix aux consommateurs de leur imposer, encore une fois, une facture de 224$ de plus par année par personne.
Sans oublier, Renaud, qu'on en jette des milliers de litres par semaine pour contrôler l'offre et la demande.
Absolument. Puis je dirais que plus inquiétant encore, l'effet que ça a sur nos entreprises agricoles et les transformateurs. Parce qu'au Québec, on fait des super bons fromages. On peut pas se le cacher, là, on a vraiment une expertise à ce niveau-là, mais on a de la misère à les exporter. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas les volumes de lait nécessaires. Puis généralement, comme on a des gros tarifs sur les produits laitiers, les autres pays se permettent de nous garder des gros tarifs sur nos produits laitiers. on empêche le développement d'une filière plus spécialisée. On empêche aussi le développement de nouveaux arrivants, de nouveaux agriculteurs dans ce domaine-là. Parce qu'un jeune qui commence, qui veut s'en aller en agriculture, ben écoutez, je regardais récemment, là, je pense que c'est Sylvain Charlebois qui parlait de ça, mais non, c'est un autre économiste agricole. Ben écoutez, le prix d'une vache, c'est à peu près 3 000 $. Le prix du quota, qui est rattaché à la vache, c'est 30 000. Ben, quand tu dis, écoute, ça va te coûter 10 fois plus cher que pour acheter l'animal, juste pour acheter le droit de produire, ben, ça finit par coûter extrêmement cher. Puis il n'y a pas grand jeune qui est prêt à se lancer dans l'agriculture, qui est nécessairement un 2-3 millions en banque pour pouvoir acheter les quotas nécessaires.
C'est capoté parce que on parle de deux sujets complètement différents, là, l'accès au logement. Et puis en même temps, le lait, la base, le lait, c'est le premier liquide que tu bois en venant au monde. Là. Et puis les deux, c'est des affaires qui nous coûtent un bras au Québec parce que l'éléphant, c'est le gouvernement, il est rentré d'une pièce de porcelaine puis il débâtit tout.
Ben, exactement. Puis c'est pas seulement qu'il débâtit tout, mais il se dit que c'est lui qui est la solution. C'est un peu ça qui est le problème. Il a causé le problème. Et après ça, il se dit, écoute, je vais juste rajouter un programme de plus pour
devenir la solution.
Dans bien des cas, la meilleure chose que le gouvernement pourrait faire, c'est de se regarder en miroir, se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour contribuer au problème, puis qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour ne plus contribuer au problème?
Oui, c'est beau, admettre ses torts.
Un vœu pieux. Un vœu pieux. Ça n'arrivera pas, Renaud, malheureusement. Ils ne sont pas capables de faire de se regarder dans un miroir puis de regarder les bonnes et les mauvaises décisions qui ont été prises dans le passé. En fait, ils critiquent, quand ils sont dans l'opposition, ils critiquent avec raison les décisions qui sont prises, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils ne les renversent pas.
Ben oui, les meilleurs gouvernements sont tous dans l'opposition, malheureusement.
Voilà, voilà, voilà. Merci infiniment, Renaud. Je te souhaite de passer une belle semaine.
Ben merci, pareillement.
Bye-bye, Renaud Brassard, à qui on parlait, de l'IEDM. Il a raison sur un paquet de points. Il faut que le gouvernement arrête de s'en mêler pour qu'on puisse avoir un semblant d'aller mieux, si on veut. Si on veut voir la vie en rose, si on veut regarder puis dire « tabarnouche, on voit la lumière au bout du tunnel », ça prend un gouvernement qui décide de, un, pour se regarder dans le miroir, puis deux, arrêter de se mêler de tout ce dont on n'a pas besoin que le gouvernement se mêle.
Puis à ceux qui seraient tentés de dire que c'est juste 224 $ puis t'es pas à ça du bonheur, c'est parce qu'il y en a combien qui traînent à gauche puis à droite dans différents départements de la chaîne d'approvisionnement, de notre vie là, au quotidien, qu'on pourrait aller récupérer. Si ça fait 1 000 $ au bout de l'année, c'est quand même 1 000 $ de plus dans tes poches de salaire que tu t'en fais ramasser pas mal. Là.
Et je pense que la solution, à base, c'est pas nécessairement... Non, t'sais, le gouvernement va se défendre en disant « Ouais, mais on a mis le PL31 pour les logements, entre autres, pour que les villes autorisent des logements sur des terrains, c'est qu'on aille à passer à référendum pour le changement de zonage. » Puis on le voit, là. Essayez de débâtir une maison pour bâtir une maison unifamiliale à l'heure actuelle. Vous allez vous faire dire non, là. Si tu veux déconstruire pour la reconstruction dans la ville de Québec, ça te prend un multilogement. Même si c'est en plein cœur d'un quartier résidentiel, même si c'est un quartier construit des années 70 où tu as juste des bungalows plein pied, si jamais tu veux en débâtir une, il va falloir que tu montes quelque chose dans lequel il va y avoir 6, peut-être même 12 ou encore 15 logements. C'est complètement malade. Puis là, il va également, là, je ne sais pas si vous avez vu hier, on a autorisé la tour de 20 étages sur Grande Allée. Là.
Oui.
20 étages sur Grande Allée, c'est en même temps, il faut que la Ville de Québec, ils nous le disent depuis, vous avez voté pour ça, là. Ils nous le disent depuis 4 ans, on va bâtir la ville sur la ville, mais juste en face du Concorde, on va mettre une bâtisse.
Là où il y avait l'église.
Là où il y avait l'église.
Okay. Ouais, puis là où on a empêché que ce soit un stationnement d'ailleurs.
Là où on voulait un stationnement au début, on a dit non, finalement ça va être un 20 logements qui va être, pas un 20 logements, un 20 étages qui va être bâti là, où on dit que 10% va être des logements préabordables.
Oui. Mais c'est un autre programme, c'est un genre de HLM de luxe du gouvernement pour avoir des loyers à prix modique à taux fixe.
Un 10 %, pas beaucoup de parking non plus.
Donc, non,
donc,
à pied.
Donc beaucoup de gens qui vont se payer des 5,5 à 5 000 $ par mois pour se promener à pied sur Grande Allée.
Ouais. Tramway va être là, pas de problème.
Ben, attends un peu, c'est du monde aussi qui va possiblement se plaindre là, du bruit quand ça va swinguer un peu sur Grande Allée. Là.
Ça va être tellement confortable.
Ça va être piéton, Dan. Ça va être piéton, éventuellement, Grande Allée.
Oui, mais ils vont fêter pareil sur les terrasses.
Je sais. Le lancement de l'été, ça fait pas mal là.
Souvenez-vous ce qui est arrivé avec l'Agora quand ils se sont mis à bâtir des immeubles à condos autour. Oui. On a de la misère à produire des événements maintenant à l'Agora.
Ben oui.
Grande Allée.
Ben, moi, j'ai entendu, durant les vacances, des gens discuter de ce projet de tramway en disant... Oui, oui, ça va passer en face de chez nous. Et moi, je suis content, ma maison prend de la valeur.
Ah, non, je sais, c'est...
Ça veut dire qu'il va
vendre. À suivre.
C'est ça. Ça, ça
veut dire qu'il va d'après moi, éventuellement. Là.
Ah ouais,
à suivre. Si le bruit du tramway vient fesser sur le Kennexel, puis que ça fait du... ça se peut que sa maison ne prenne pas de valeur. Là.
On verra.
On le sait pas. En fait, on est en test. Vous allez me dire, ouais, on le sait, il y a des tramways qui ont été bâtis partout dans le monde. Non. Pas dans une ville comme Québec. C'est juste ça le point. Pas dans une ville comme Québec, c'est pas arrivé. C'est une ville dans laquelle il tombe 400 cm de neige l'hiver. Une ville qui est déjà bâtite aussi. Là. C'est bâtite.
Oh oui, j'allais, bon, moi, j'allais le dire.
Ça a bien été. Vraiment bien été. Donc, 20, là, c'est ça, un 20 étages qui va être bâti directement sur Grande Allée avec le son du festival d'été qui va venir péter dedans. Je ne sais pas comment ça va être. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces citoyens-là vont avoir un pouvoir pour mettre un stop au fun en plein centre-ville, mais ça se pourrait. Non,
tu t'en vas habiter là, tu es en toute connaissance de cause.
T'as vu, là. Hey.
T'es quand même à 100 mètres de la pancarte qui dit faites pas trop de bruit en moto, hein, Nick?
Oui,
hein,
mais. Nick?
Toi, t'es pas le bienvenu sur Grande Allée. Hein?
Ben, en fait, à partir de la rue qui mène à la fontaine de Tourny, là, faut que tu tournes à gauche parce que t'as pas le droit de passer les murs en moto, fait trop de bruit.
Voilà. Imagine!
No fun zone. Non. Mais tu vas pouvoir aller à la nouvelle épicerie à pied, 15 minutes.
Un autre texte également qui est paru ce matin sur le site de Radio-Canada. On n'a pas eu le temps d'en parler un peu plus tôt ce matin. Là, on est sur la grosse, grosse job sur le troisième lien.
Ben oui!
Parce que là, on a fait un appel d'intérêt international, puis là, on a demandé à un expert. Là. Hey, les experts! Pierre Baribeau! Hey, Pierre, viens ici, là. Pierre qui est président de Gris-Orange. Hey, Pierre, viens nous dire que c'est pas bon. Puis lui, il dit non, ça marchera pas. Lui, il dit, c'est certain que le gouvernement du Québec devra financer la majorité de l'infrastructure parce que c'est un pont qui va coûter trop cher. Va coûter plus cher que le pont de la 25. Puis il y a moins de monde qui va passer dessus. Il n'y a pas un privé qui va embarquer là-dessus. Pouvez-vous laisser l'appel d'offres se terminer? Pouvez-vous laisser l'appel d'offres se rouler? Là? Un projet qui va coûter au bas mot 10 milliards uniquement pour la construction, mais peut-être qu'on va se rendre à 12 ou 14 milliards. Ça, c'est correct. Lui, il a le droit de dire ça, mais quand on dit que c'est le montant à quel le tramway va finir, on se fait traiter de menteur puis de crosseur. Quand on ajoute les frais de financement, d'entretien, on va dépasser les 20 milliards. On est rendu là, là. Dans le narratif,
dans le 20?
Pour le troisième lien, on est rendu à 20 milliards, basé sur rien. Par contre, quand on estime que le tramway va possiblement coûter plus cher que 8 milliards, on se fait traiter de menteur et de complotiste.
Il n'y aura pas de dépassement de coûts.
C'est tout.
Bon.
Moi, j'aime pas qu'on revienne encore et encore, année après année, on commande des études sur la mobilité de la région. Puis qu'on revient... Ça, là, c'est l'argument le plus innocent des anti-troisième lien. Que tu sois pour ou que tu sois contre, OK? Fais juste réfléchir au fait qu'on commande des études sur la mobilité pour nous dire qu'il n'y a pas de monde qui circule à l'est. Que tout le monde, toutes les allées et retours des voitures se font où les deux ponts existants.
C'est faux. Regarde l'autoroute 20 à partir de Lévis-Centreville.
Qui est rendu le bordel actuellement. Hein? C'est pas
allable.
Peu importe le moment où tu passes en journée, tu vas pogner du trafic. Mais non, on peut pas faire ça. C'est pas réalisable, le projet. Ça va coûter trop cher, c'est pas réaliste. Puis il y a personne qui passe là. Le bassin de population n'est pas là dans le corridor du troisième lien. C'est parce qu'il y a pas d'occasion d'y aller.
Ah, puis...
Je trouve que c'est un raccourci intellectuel et prendre le monde pour des caves de répéter cet argument-là. Je me souviens, à une époque, avec Danny dans le MID, quand j'étais dans le MID... On faisait des débats avec les partis politiques quand les chefs... Il y a eu une passe où ils ont accepté de venir ici. Là. Puis on l'avait mis... je l'avais mis en image à Pascal Bérubé. J'avais dit, comment tu veux qu'on bâtisse une maison avec deux portes sur une façade puis que je te propose d'en mettre une en arrière pour que ce soit plus simple d'accès dans une autre façade du mur, tu sais, pour rentrer puis sortir de la maison. Puis tu me dis que ça n'a pas de sens.
Non, c'est...
Mais que deux portes côte à côte, c'est correct. Il est où le problème de demander juste d'avoir une porte en arrière de ma maison?
Ben en fait, de compliquer la boucle, de fermer le fer à cheval. On l'a utilisé 3656 façons de le dire. Puis ce matin, c'est la façon dont les anti-troisième lien vont résumer le texte d'Olivier Lemieux, qui est dans sur le site de Radio-Canada. C'est 20 milliards pour 800 autos par jour.
Puis c'est pas vrai?
Ben non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai?
C'est clair que c'est pas vrai.
Si les voitures pouvaient voler, il y en aurait plus dans le corridor à l'est, mais c'est pas ça encore. Fait que
si
ça
les voitures pouvaient voler, vous verriez pas le soleil au-dessus du fleuve.
Au-delà du trafic, là, prenez juste le transport de marchandises qui pourrait circuler à l'est, mm-hmm. qui arrive du bas du fleuve, qui arrive de Bellechasse, qui part de la Côte-Nord pour aller vers l'est du Québec. Je veux dire, ça serait un corridor parfait. Là.
Ah, pis c'est ça, c'est que je veux dire.
Faire le grand tour.
C'est même pas réalisable actuellement. La traverse, ça peut, c'est un backup, là. Il y en a qui peuvent la prendre à tous les jours, je respecte ça, mais dans ma tête, c'est une option alternative à un backup. C'est quasiment un passe-temps. Là. J'ai du temps à matin pour prendre la traverse. C'est pas viable. Là.
La traverse, là, c'est pour que les enfants trouvent ça le fun.
C'est ça. C'est touristique, là, la traverse Québec-Lévis. Là. Ou les travailleurs.
Mais moi, quand j'ai travaillé à Lévis, j'ai connu une époque où c'était une voie de circulation convenable pour prendre la traverse. T'sais, moi, je travaillais au centre-ville de Lévis. Là. Je travaillais chez Desjardins. Tu peux pas être plus à côté sur le golf. Tu es à côté des Galeries Chagnon. Tu peux pas plus être à l'est de Lévis que ça. Puis j'en avais du monde qui restait à Beauport, qui prenait la traverse Québec-Lévis. Mais aujourd'hui, c'est plus faisable. Là.
Mais non.
C'est pas réalisable. Puis c'est des gens qui sont dans... Puis là, pourquoi ils déménagent pas? Ben parce que son chum travaille à la municipalité de Boischatel. Tu veux faire... T'sais, je donne un exemple de même. Ouais. Je dis des jobs au hasard. Là.
Ouais, mais c'est logique pour eux de se déplacer comme ça.
Mais les études, Camille le dit, c'est 800 totos. C'est 800 totos, des petits totos qui vont passer
des
sur le nouveau.
Des totos TOS?
Les deux.
Ben,
les
écoute, deux. Dans leur tête, un autre, c'est les deux. Ouais, ça, c'est sûr.
Exact.
8h30, on revient à Morel Live.
Morel.
Petite pause. De retour dans un instant. Radio X.